Bonjour à toutes, ici Amélie Cosneau et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Ce sont des situations qui vous dérangent, vous font souffrir, culpabiliser. Bref, ce sont des situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Aujourd'hui, on va parler de la petite enfance, cette période tout aussi réjouissante qu'épuisante. D'un côté, nous avons de jeunes enfants en pleine quête d'autonomie qui font preuve de curiosité et d'un esprit très entreprenant, au point de mettre beaucoup de bazar dans la maison. Et de l'autre côté, nous avons des mères qui aspirent à un peu de temps pour elles à travers ce quotidien exigeant. Alors, lorsque les enfants s'occupent seuls, c'est souvent le moment d'en profiter pour se détendre ou s'adonner à une activité sans être constamment sollicité. Peut-être que c'est d'ailleurs votre cas. En tout cas, c'est le quotidien de Manon, maman de jumeaux qui vont bientôt souffler leur cinquième bougie. Et le problème de Manon, c'est qu'elle se retrouve confrontée à des désaccords avec son conjoint à propos de leur vision respective de l'éducation et plus encore à propos de leurs attentes et de leurs besoins. Pour lui, les enfants ne devraient pas avoir un accès illimité à tout et encore moins la liberté de mettre le bazar à leur guise. Résultat, le mari de Manon tend à se désengager, laissant Manon de plus en plus seule pour gérer leurs enfants, car il peine à trouver sa place. Au fil de notre conversation, nous avons réussi à identifier le vrai problème auquel Manon fait face. Souvent, on a tendance à penser que l'on a cerné notre problème alors qu'il n'est que le symptôme d'un autre souci plus profond. Est-ce que vous vous identifiez à Manon ? Si oui, cet épisode sera pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Manon, comment vas-tu ?
Bonjour Amélie, ça va très bien.
Alors, petit laïus, je suis extrêmement heureuse de te voir parce que j'ai eu la chance de te rencontrer en 2020. C'est en 2020, hein, pendant le Maman Épanouie Tour, puisque tu as suivi le programme Maman Épanouie. Tu faisais partie des 13 ou 15, je ne sais plus le nombre exact, personnes, mamans, que j'ai été rencontrer chez elles durant tout cet été-là. C'était en 2021. Je ne sais plus exactement. Sûr que c'est en 2021, c'est sûr. Et voilà, et on a pu partager un beau moment ensemble avec tes enfants, avec ton conjoint, dans ta région, dans ta magnifique région. Voilà, un peu dans les montagnes, c'est dans le massif central. Hein, enfin, on peut appeler ça comme ça. Et voilà, je suis très heureuse de te rencontrer, de te voir à nouveau. Alors, est-ce que tu peux, pour celles qui ne te connaissent pas, te présenter un petit peu ta famille et puis nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui?
Alors oui, bien sûr, je m'appelle Manon, je suis mariée depuis quelques années déjà et nous avons deux enfants qui sont jumeaux et qui vont approcher les 5 ans. Je suis professeure des écoles, formée à la pédagogie Montessori et j'ai donc suivi depuis la naissance de mes enfants le programme Maman épanouie et qui aujourd'hui me rapproche de toi puisque le fait d'avoir suivi ce programme m'a fait évoluer. Mais voilà, aujourd'hui, je rencontre d'autres difficultés avec mon mari. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Alors, le fait d'avoir suivi le programme Maman épanouie, pendant plusieurs années, j'ai essayé de mettre en place tous tes conseils, j'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'au terme ce programme. Dans un premier temps, mon mari, il avait suivi avec moi les premières vidéos, et puis petit à petit, il s'en est relâché, je dirais qu'aujourd'hui, on a une vision de l'éducation. La vision de l'éducation qu'on souhaite offrir à nos enfants, elle s'éloigne un petit peu de celle de mon mari qui, lui, est resté plus dans des visions traditionnelles de ce qu'il a pu recevoir de sa propre famille. Et moi, je souhaite essayer d'autres techniques, voir comment on peut faire différemment. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple ? Est-ce que vous prenez la tête au quotidien parce que toi, tu vas dire non, il faut faire comme ça, lui va dire non, moi, je veux que ça soit comme ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ?
Oui, alors non, on est un petit peu au-delà parce qu'on essaye d'éviter quand même de se prendre la tête devant nos enfants. Ce qui fait que du coup, c'est essentiellement moi à 90% qui vais mettre les règles aux enfants et qui vais assurer la gestion de la famille. Et lui, je sens qu'il s'éloigne, en fait. Il me dit, écoute, de toute façon, moi, je ne sais pas faire. Je ne comprends pas ce que tu essayes de faire. En plus, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Il me dit, de toute façon, voilà, rien ne vaut d'être un peu sévère et qu'ils comprennent qu'ils aient des limites. Nos enfants n'ont aucune limite. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Voilà.
OK. OK.
Donc ils préfèrent s'en aller. Et aujourd'hui, mon problème, c'est que j'ai un mari qui est très absent. Du cercle familial, qui passe très peu de temps avec ses enfants parce qu'il a l'impression d'être impuissant. Et je pense que l'étape que j'ai franchie en suivant le programme Maman épanouie a été peut-être trop rapide pour lui, qui d'une part est un homme, enfin entre guillemets, est un papa, donc voilà, ils ont quand même encore un peu plus de mal à gérer les choses de la vie quotidienne. Et en plus, bah, j'ai progressé vers des choses qui lui sont complètement inconnues.
Alors, par rapport à son sentiment d'impuissance et le fait qu'il s'éloigne, qu'il quitte un petit peu cet environnement, j'ai envie de dire, c'est légitime, c'est normal. C'est normal parce que tout être humain, à partir du moment où il entend que ça soit rabâché, tu fais pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire... Ben, il y a un abandon, ça peut être un abandon physique, ça peut être un abandon émotionnel, mais en tout cas, il y a une distance qui va être prise, parce qu'à un moment, c'est humain de se dire, ok, ben, si j'y arrive pas, et que je vois que je n'arrive pas à faire ma place, je pars. Alors, ça dépend aussi du tempérament, il y en a d'autres qui vont, au contraire, okay, se dire, ok, ben, c'est aussi une manière de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même, mais il y en a beaucoup qui vont lâcher, en fait, qui vont abandonner.
C'est ça. Et voilà. Il me dit, je préfère abandonner plutôt que de passer pour le méchant. Et toi, enfin, voilà. Donc, on est dans ce parallèle-là. Voilà.
En fait, ce qui serait intéressant, parce que tu vois, quand il dit, par exemple, l'enfant a besoin de limites, il a besoin de cadre, et ça, c'est vrai. Tu connais, en plus, t'es formé à la pédagogie Montessori, tu sais très bien que Maria Montessori avait cette idée de laisser l'enfant faire dans un cadre bien défini, avec des règles, des obligations, des devoirs qui vont de tous les parties, enfin, qui sont attribués à toutes les parties, tant aux enfants qu'aux accompagnants, aux éducateurs. Donc, c'est important aussi d'évoluer à la maison à travers ce cadre. L'enfant ne peut pas tout faire, ça, c'est clair.
Le problème, c'est que je pense que notre vision du cadre est différente. Et à partir de là, moi, j'ai l'impression que mes enfants évoluent dans un certain cadre et lui, il aimerait le rétrécir, ce cadre.
Ouais. Alors, est-ce que tu peux... Là, je pense qu'il y a une question de besoin derrière ça. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a de grandes chances que ton conjoint voit le cadre, établisse le cadre en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que bah, il va être strict sur certaines choses parce que si ça dépasse... ça va venir empiéter sur ses besoins. Et il a peur que ses besoins ne soient plus assouvis.
C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que, pour ma part, j'ai mis beaucoup de côté une grande partie quand même de mes besoins pour laisser plus de liberté aussi à mes enfants. Et effectivement, le moment où moi, je mets le cadre, où je dis stop, bah pour lui, son cadre, il était dépassé déjà depuis très longtemps.
Bien sûr. Après, il faut aussi avoir conscience qu'une femme sera toujours plus investie auprès de ses enfants, de manière générale, bien sûr qu'il y a des exceptions,
oui.
Mais de manière générale, déjà parce qu'on les a portés pendant 9 mois, donc il y a un côté physiologique, on est engagé. Le mari n'a pas ce même engagement, ne va pas être engagé à la même hauteur parce qu'il n'y a pas voilà, cet engagement physiologique. Nous, on les a portés, on les a sortis. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, c'est physique, c'est physiologique qui sont en nous. Parfois même, on les a allaités, parfois même pendant des années. Donc, il y a ce lien qui se crée. Et donc, forcément, on va dire que nos besoins à nous vont être moins importants, ou en tout cas, on est capable de les rendre un petit peu plus discrets, ou en tout cas un peu plus petits, ou de les minimiser pendant un certain laps de temps, parce qu'on sait que des enfants vont aussi être énergivores en termes de besoins. Un enfant a énormément besoin de nous. D'ailleurs, au départ, c'est même pas un être autonome. Pendant les 5-6 premières années de sa vie, il n'est pas autonome. Et d'ailleurs, même au-delà, il n'est encore pas autonome, mais en tout cas, j'ai envie de dire, même pour ses besoins les plus primaires, comme se nourrir, jusqu'à 4, 5, 6 ans, voire certains, c'est pas, enfin, ils ne peuvent pas se nourrir par eux-mêmes.
Et alors justement, sur l'autonomie, c'est là où aussi on n'est pas d'accord, parce que moi, je développe, voilà, avec Maria Montessori, mes enfants sont relativement autonomes, mais effectivement, ils sont autonomes avec leur âge. Donc forcément, des fois, ils font mal, ils cassent, ils abîment, où voilà, c'est pas fait avec les besoins que nous, on a en tant qu'adultes. Et donc ça, voilà, là aussi, on a rupture, on ne se comprend pas. Il me dit, ils sont trop autonomes, voilà où ça nous mène, on arrive à des dérapages, voilà.
Alors, est-ce que
Ils
tu peux
font
me
ce
parler
qu'ils
d'un
veulent. Parce
dérapage?
que... Alors, eh ben, par exemple, moi, j'ai des enfants qui vont pas forcément venir me demander tout le temps est-ce que je peux aller faire tel jeu, est-ce que je peux. Ils ont libre accès à la maison. Et donc, bah, effectivement, il y a des moments où ils vont sortir leur jeu, puis ils vont aller toucher aussi un peu nos affaires, et puis un peu à droite, et puis un peu à gauche. Et puis on se retrouve. Moi, je me dis, bah, pendant qu'ils ont fait ça, j'ai pu cuisiner, j'ai pu faire le repassage, j'ai pu. Alors oui, certes, la maison est un champ de
Bataille.
jouets, voilà. Mais à la fois, ils m'ont libéré du temps. Ils m'ont permis de faire ce que j'avais besoin. Donc non, j'ai pas crié, non, je leur ai pas dit stop, parce que j'avais besoin de temps à ce moment-là. Bon, une fois que voilà, une fois que le jeu est terminé, bah, par contre, on essaye de ranger ensemble.
Ouais. Alors quand tu
Voilà.
dis on essaye de
Et
ranger ensemble, tu peux
même
me...
avec mes enfants, hein, voilà, maintenant
Ouais.
ils savent, hein, ils ont les techniques, hein, on a
Voilà.
expliqué.
Donc en fait, ils rangent. On est d'accord
Voilà,
qu'ils
oui,
rangent.
on range. Bon, bah, des fois, par contre, on se rend compte qu'ils nous ont peut-être abîmé quelque chose, voilà, auquel on n'aurait pas voulu qu'ils touchent, auquel. Donc, c'est là où après, voilà, lui, il se dit, ben, il faudrait qu'ils jouent simplement dans leur chambre avec ce qui leur est autorisé, leur jouer, parce qu'ils détériorent peut-être la maison à ce moment-là, ou parce qu'ils ont déchiré telle chose, ou ils ont abîmé telle chose, et ça, ils ne le supportent pas, en fait.
Alors, il y a toujours cette technique infaillible qui est d'enlever les choses auxquelles les enfants ne peuvent pas avoir accès.
C'est ça.
Ça, c'est un réaménagement de l'espace. C'est hyper
Ouais.
important quand on cohabite avec des enfants. Il faut bien avoir conscience que notre maison, elle est conçue pour des adultes. On a habité cette maison ou cet appartement ou en tout cas ce lieu avant l'arrivée de nos enfants. Donc, il est conçu pour nous, avec les objets qu'on aime bien, placés à la hauteur qu'on veut, dans les paniers, dans les tiroirs et dans les placards qu'on veut. Quand nos enfants arrivent, ce sont des explorateurs en quête de découverte.
C'est ça.
Donc, s'il y a des choses auxquelles on ne veut pas qu'ils aient accès, le meilleur moyen, c'est de les enlever. Ou alors, bah, d'avoir conscience que peut-être, en effet, ça sera abîmé parce que l'enfant peut être un peu brutal, ne pas avoir conscience
Voilà.
de ses gestes, peut déchirer un livre en tournant une page, tout simplement, sans
Ouais.
avoir absolument la conscience de déchirer une page.
Et nous derrière, eh ben on va il va y avoir punition, on va gronder, enfin voilà, ce genre de choses.
Alors, est-ce qu'avec ça, tu en as déjà discuté avec ton conjoint? Est-ce qu'il serait prêt à mettre en dehors de la portée des enfants certaines affaires à lui, certains accessoires, ou en tout cas des choses qu'il veut conserver dans un
Mais
très bon état?
je pense qu'il faut qu'on en discute de ça.
C'est important.
De ce qui peut, on en a déjà beaucoup enlevé. C'est vrai qu'on en arrive à un point où en fait, bon, je pense que la maison, effectivement, quand on a conçu cette maison, on n'a pas forcément mis des placards qui peuvent se fermer. Et c'est là le grand problème de notre maison, c'est que tout est accessible partout. Donc en fait, on a beau l'enlever, on a beau le mettre dans une caisse, on a beau le mettre en hauteur, mais en fait, il pallie à tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont monter sur une chaise, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir le placard, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir la caisse, mes enfants. Ils vont aller jusqu'au bout, même si j'ai dit non.
Alors, juste
Et
pour que
c'est
je
là où
comprenne.
mon mari me dit, ils font ce qu'ils veulent, tes enfants. Ils n'ont
Parce
pas de
que
limite.
qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Par exemple, à ce moment-là, pourquoi est-ce que ton conjoint ne veut... Là, en l'occurrence, tu me parles de leurs affaires. Tu dis, on place dans des caisses. C'est tes affaires ou
Oui,
c'est leurs
les
affaires?
nôtres aussi, par
Ah, les
exemple,
vôtres
des
aussi.
choses que j'ai pu ranger, que voilà, les choses de la maison ont pu être rangées, ont pu être aménagées, mais voilà, peut-être pas dans des placards qui se ferment. Voilà, mais ça, je pense que c'est un peu un problème d'aménagement de la maison, effectivement.
Ouais. Ça, je pense que c'est assez simple à faire de pouvoir réaménager. Tu peux aussi le mettre dans ta chambre. S'il y a vraiment des choses qui sont hyper importantes, peut-être que ta chambre, ça n'a pas un très grand intérêt pour eux. Si toi, en fait, il faut savoir que les enfants sont quand même souvent dans la pièce où on est. Alors, en
Oui, bien
l'occurrence, peut-être
sûr.
la nuit, ils peuvent être intéressés par ta chambre, mais la
Oui.
journée, ils ne sont pas
Ouais.
souvent intéressés par les pièces où on n'est pas. En
C'est
l'occurrence, les
sûr.
salles de bain et toutes les chambres. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien difficile de faire jouer des enfants dans une chambre ou dans une salle d'activité, parce qu'ils veulent être là où on est.
C'est ça, tout à
Donc,
fait.
la pièce de vie très, ou la cuisine, très généralement, ou un bureau si on travaille de chez soi dans un bureau. En tout cas, moi, je vois bien, c'est comme ça que ça se passe avec mes enfants. Donc, s'il y a vraiment des choses auxquels tu tiens, et j'ai envie de dire vous tenez, placez-les dans des endroits, dans des pièces où les enfants ne sont pas attirés. Tu vois, plutôt que de les mettre tout en haut, parce que en fait, il faut bien avoir conscience que, encore une fois, dans la quête d'exploration de l'enfant, quand il y a un interdit, il a juste envie d'y aller pour voir. Lui, il a besoin de se créer un système de référence qui soit fiable. Il a besoin de comprendre ce que c'est, pourquoi c'est interdit.
C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que si finalement, si c'était pas interdit, il irait pas y toucher.
C'est ça. Alors, peut-être aussi la solution, c'est de le voir avec l'enfant. Est-ce que tu peux me donner un exemple précis de quelque chose, d'une affaire que ton conjoint ne veut pas que les enfants, auquel les enfants touchent?
C'est compliqué, là. Non, mais par exemple, alors, oui, si, je vais te donner cet exemple. Mes enfants savent faire du vélo de façon autonome, sauf qu'ils savent qu'ils doivent mettre le casque, mettre les protections, etc. Le casque, les protections, tout ça, c'est tout mis dans un endroit qui sont à portée de leurs mains pour qu'ils soient autonomes à le faire. Le problème, par exemple, ce qui va se passer, c'est que mes enfants, ils vont déborder de la consigne et aller aussi chercher, par exemple, son matériel à lui parce que c'est rangé à côté et qui, par contre, est plus fragile ou auquel il n'a pas envie de toucher parce que c'est plus du matériel d'adulte, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est toujours le fait qu'ils dépassent un tout petit peu la limite et qui fait que, par exemple, on pense qu'ils sont autonomes, OK, aller faire du vélo, nickel. Nous, du coup, on n'arrête pas notre activité. Ils partent. Et en fait, quand on revient sur les lieux, ben, on s'est rendu compte qu'ils avaient touché la gourde, qu'ils avaient ouvert le robinet, qu'il y avait de l'eau de partout. Parce qu'en fait, peut-être que ce qu'ils cherchent à faire, ils ne sont peut-être pas encore assez grands pour pouvoir le faire tout seul, je ne sais pas. Je pense que peut-être l'autonomie que je leur laisse, ils n'ont peut-être pas encore tout à fait l'âge pour la faire tout seul. Et pourtant, ils sont tellement contents. Voilà, ils font du vélo. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Si, par exemple, j'étais en train de faire autre chose, ben, j'ai pu libérer du temps. Mais oui, voilà, quand je suis arrivée ensuite sur la scène, et il suffit que ce soit mon mari qui arrive sur la scène avant moi. Et là, il me dit, voilà, encore une fois, ils ont toute liberté, ils font ce qu'ils veulent, voilà, parce que ben, ils ont dérangé, ils ont.
Alors,
c'est un peu ce genre de choses qui peut être mis.
Je comprends.
Aussi bien, bah, si on fait de la pâtisserie, pareil, on a mis des choses, ils sont autonomes. S'ils doivent aller se laver les dents, on a mis un peu des choses, mais ils sont un peu autonomes, mais au final, ils vont quand même aller chercher un petit peu autour et on finit par. Voilà.
Tu sais, ce fait que les enfants aillent chercher un petit peu autour, c'est que justement, il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas assez conscience du cadre. Ouais. Vraiment. Ouais. Parce que déjà, ils sont petits. Ils ont 5 ans, hein. Ils vont sur leurs 6 ans.
Non, ils ont 4 ans.
Ils ont 4 ans, ils vont sur leurs 5 ans.
Ils vont 5 ans, ouais.
Ils sont petits. Ils sont petits, ouais. Ils n'ont que 4 ans. C'est normal, en fait, il y a un moment, ils voient une gourde, ils voient du matériel, ils ont envie de l'utiliser. Et en fait, si tu veux, à cet âge-là, il faut être encore avec eux.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est clair. C'est clair, ils sont trop petits. Moi, je vois Constance qui va sur ses 6 ans. Il y a encore énormément de choses que je fais avec elle. Tu vois, je vois. Alors, ça ne veut pas dire être là tout le temps, mais ça veut simplement dire être là au moment de transition. Tu vois, par exemple, pour se laver les dents, quand elle se lave les dents, moi, je suis dans la salle de bain avec elle. D'ailleurs, j'en profite pour me laver les dents moi-même.
Oui,
et
voilà,
on le fait ensemble parce qu'elle a besoin. Tu vois, c'est comme si elle ne voyait pas. Quand elle met du dentifrice partout, c'est comme si elle ne le voyait pas. Je suis obligée de lui dire, regarde, Constance, c'est du dentifrice, il faut que tu prennes l'éponge et que tu nettoies.
C'est ça. Et je pense que j'ai mis de l'autonomie. Alors, c'est peut-être aussi du fait qu'il y en a deux, que ça me c'est énergivore c'est très énergivore d'en avoir deux du même âge qui sont là-dedans, et donc j'ai cherché à développer cette autonomie, et du moment où j'ai vu qu'ils étaient capables d'en faire un petit peu, j'ai beaucoup lâché en fait. Donc effectivement
il y a ça,
peut-être que sur le cadre, parce que ça c'est pas que ça m'arrange, mais je me dis, qu'est-ce que je préfère pour moi, je me dis, est-ce que je préfère qu'ils aient mis un peu d'eau, qu'ils aient touché la gourde, qu'ils aient été ailleurs, mais qu'ils ne m'aient pas coupé dans ce que je suis en train de faire, ou est-ce que, et donc moi, j'ai pris le parti de dire, ça ne me dérange pas, je gérerai après, et mon mari, lui, c'est peut-être là où on touche le doigt.
Exactement, Manon. T'as exactement mis le doigt sur le vrai problème. Ouais. Le vrai problème, c'est que toi, tu vois ces moments-là comme des moments où tu vas pouvoir faire quelque chose sans être sollicité.
Oui, c'est ça.
Mais finalement, c'est assez différent que de poser un cadre. Parce que poser un cadre, oui, ça demande de l'investissement et de la présence et de la constance auprès de nos enfants. Et en fait, toi, tu vois ça comme te dire, bah oui, je vais pouvoir faire la cuisine ou ranger ou travailler en n'étant pas coupé. Hein, alors que finalement, tes enfants sont en train de, bah, de faire n'importe quoi. Alors, n'importe quoi,
Oui, non, mais
attention,
tout est
c'est pas
relatif,
n'importe quoi, tout est relatif,
mais
voilà.
tu
Mais en
vois
tout cas, ils sont en train de dépasser le
le
cadre
cadre, c'est ça.
parce qu'ils sont tout seuls, en fait. Ils sont livrés à eux-mêmes et que ce sont des enfants de 4 ans. Encore une fois, hein, livrés à eux-mêmes, tout est relatif. Il y a aussi une certaine sécurité qui est là. Mais je veux dire, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, par exemple, ça peut très bien être, tu sais, sans que ça te prenne trop de temps, c'est le moment, si on reprend cet exemple-là, où ils vont faire du vélo. Tu vas avec eux dans le petit
Une
cabanon
pièce
ou le
extérieure.
garage. Tu leur dis, voilà, c'est dans cette pièce-là, le reste, c'est les affaires de papa. Peut-être que s'ils veulent une gourde, ça peut être aussi
Oui, voilà,
à
mais je
l'occasion
suis
d'un
disponible.
cadeau
Oui,
ou voilà.
il faut que je revoie un petit peu mes limites, les endroits où je les accompagne, jusqu'où je les accompagne et jusqu'où je suis encore avec eux.
Et surtout que finalement, je t'ai entendu dire tout à l'heure, et après, je gère. Donc, ça veut dire que, est-ce que,
Il y
tu
a
vois,
un
par exemple,
moment donné où quand même je vais voir ce qui s'est passé.
non, mais tu gères, c'est que, en fait, ils vont en mettre partout, tu vois, ils vont tout sortir, ça va être le foutoir là-dedans, il n'y a pas d'autre mot.
C'est ça.
Mais en fait, finalement, après, donc toi, tu as pu faire ce que tu voulais, tu as eu du
Voilà.
temps, mais quelque
Mais
part, après, tu vas en reperdre parce que
je
tu vas
reprends.
devoir gérer 2 fois plus de choses.
C'est ça. Des fois, je les rappelle, ils viennent m'aider quand même
Oui,
pour
mais ça, c'est la base. C'est
ranger.
l'activité Montessori, finalement, c'est applicable à toute la vie. Il y a un début, la mise en
C'est
place,
ça.
on s'installe, on met les casques de vélo. Il y a bah, l'activité en elle-même, ok, on va faire du
Ça.
vélo, et puis il y a la fin, donc on range le matériel.
Ça.
Et si l'activité n'est pas en 3 points, avec ces 3 points-là, il y a un moment, c'est plus une activité, enfin, c'est plus cadré. Le cadre, c'est le début, le milieu, la fin. Et en fait, on est là à chaque étape. Et ok, tu vois, tes enfants sont petits. Si à 4 ans, t'en fais un peu plus qu'eux, par exemple, dans l'installation et dans le rangement, ça peut être normal, ça peut être compréhensible. Normal, un enfant de 4 ans, peut-être d'ailleurs, n'a même pas la capacité ou le recul pour tout faire parce que lui, il s'en fiche un petit peu que ce soit bien rangé. C'est pas son
Oui, c'est
problème. Lui,
ça.
il est dans
Lui,
l'instant présent.
cherchait son casque et il voulait être déjà
Voilà.
faire du vélo.
Voilà. Mais par contre, qu'il soit au moins là, qu'il te les donne, tu vois, ou rien qu'il te les donne, qu'il te les passe, ou tu vois, qu'il prenne conscience que bah on est là jusqu'à la fin, en fait. Et même s'ils observent, j'ai envie de dire, avec un enfant tout petit, des enfants parfois de moins de 3 ans, rien que s'ils sont là à te regarder ranger, ils sont déjà impliqués dans la fin de l'activité. Et ça compte. Et en fait, c'est ça le cadre. Et si tu es là au début et à la fin, tu verras que non seulement bah, tu auras beaucoup plus de temps parce que ça sera cadré, tu n'auras pas besoin de gérer en aval, ça
Bien
sera
sûr.
déjà, ça fera partie intégrante du cadre. Et puis surtout, pendant l'activité, tu auras toujours ce temps pour toi. Donc après, l'idée, c'est que si tu as besoin de plus de temps pour toi, essaye de voir aussi de quelle manière tes besoins ne sont pas assouvis, parce qu'il y a aussi évidemment ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as besoin de faire, pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire. Tu vois, il y a aussi un moment, il faut se
Et
reposer ces questions.
c'est là où des fois, ben, j'aimerais aussi que mon mari y prenne un petit peu
Mais
ben,
bien
la
sûr,
relève,
le
hein.
relais.
Et où pour l'instant, voilà.
Et tu vois, ça c'est une bonne discussion à avoir avec son conjoint, lui dire, ok, je t'entends sur le fait que tu trouves que c'est pas assez cadré, et lui dire aussi, en effet, peut-être que parce que j'ai besoin de beaucoup de temps, je les laisse parce que je sais que pendant ce temps-là, finalement, il me dérange pas, il me sollicite pas. Par contre, je comprends et je réalise, tu vois, j'ai conscience que, ben, oui, en effet, peut-être que c'est pas assez cadré. Mais le truc, c'est que moi, j'ai besoin de temps pour moi, pour faire ceci, pour faire cela. Et dans ce cas-là, tu vois, l'idée, c'est est-ce que tu veux bien qu'on prenne les choses? Ok, pendant que, en gros, quand c'est mon tour, enfin, quand c'est moi qui gère, ok, je gère bien, je remets le cadre, je suis là au début, à la fin, pour gérer la fin, le début, enfin, le début et la fin de l'activité. Mais est-ce que tu peux aussi faire des activités avec les enfants pour que je puisse avoir du temps pour moi, parce que j'en ai besoin?
C'est ça, voilà.
Tu vois? C'est important de
Et je me
communiquer
dis
ses
qu'en
besoins.
plus, en lui redonnant cette part aussi de petites activités, parce que donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé là. Voilà, on a essayé d'en discuter, pour essayer de le ramener aussi dans la famille, puis lui dire, ben, essaye de faire des activités avec les enfants, et moi, ça me libère du temps. Voilà, où je sais
Bien
que.
sûr. Et puis pour tout un tas
Et
de raisons,
lui,
c'est
ça
hyper
le.
important qu'il puisse avoir
Et ça
ce
va
temps
le
avec les enfants.
valoriser. Ça le
Mais bien
valorisera du
sûr.
fait que il va reprendre confiance en se disant j'y suis arrivée, ça s'est bien passé. Et du coup,
Et ce qui est
ça va être
important
utile.
aussi, c'est que sur ces moments-là, où il est avec lui, tu le laisses faire. Peut-être qu'il n'aura pas la posture que toi, tu as, mais c'est OK. Ce n'est pas grave s'il a une autre posture. C'est important qu'il soit aussi autonome de sa posture et que peut-être que, justement, au fur et à mesure qu'il va voir que toi, bah, tu reprends le cadre en main et que les enfants sont bien plus cadrés et que ça porte leur fruit. Là, ils n'ont que 4 ans. À 4 ans, je veux dire, moi aussi, mes enfants, ils, si je n'étais pas là, ils en mettaient partout. Et d'ailleurs, n'importe quel enfant en met partout. Il a besoin de ce cadre. Mais au fur et à mesure, alors c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va se voir à court terme. On est sur du long terme, hein, parce que les efforts payent sur le long terme. Mais il y aura en tout cas une amélioration des relations à l'intérieur du foyer familial. Et ce qu'il faut aussi, c'est que bah, tu aies conscience que ton conjoint, même si parfois il élève la voix, même si écoute, parfois il punit ou il menace, bah, écoute, c'est comme ça. Tu ne peux pas le changer, lui. Il a besoin de faire son cheminement.
Et moi, c'est vrai que... Alors, peut-être que... voilà, je ne suis pas encore totalement transformée au fait de ne plus menacer, au fait de ne plus punir. Et donc, je me refuse, en fait, à essayer d'utiliser cette méthode. Donc, je me refuse, je me refuse, je me refuse. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça éclate parce que si je n'ai pas trouvé d'autres solutions, j'en reviens aussi à, voilà, à réutiliser un peu cette méthode-là aussi.
Alors, il faut bien avoir conscience que... comment dire, la punition, les menaces, les chantages, ils servent à rien dans le sens où ils servent à rien s'il n'y a pas de lien. Par contre, si un enfant, je dis n'importe quoi, hein, casse un verre et que vous deviez aller, je sais pas, chez des amis, au parc, ou en tout cas faire un truc qu'il aimait bien, bah, évidemment que le moment de partir va être différé parce qu'il faut ranger, nettoyer. C'est pas ça. Une punition en soi. Par contre, bah, c'est une conséquence et il faut le faire.
Oui, plutôt la façon d'accueillir la situation qui va être différente.
Mais oui. Mais par contre, évidemment que l'enfant, lui, et d'ailleurs, certains pourraient dire, bah, c'est une punition de le faire nettoyer le verre cassé, par exemple, ou de le faire ranger. Mais non, c'est juste bah, la continuité de l'action. OK, on a cassé quelque chose, bah, ça nous retarde. Et c'est normal. Combien de fois c'est arrivé, tu sais, juste avant de partir, tu casses un truc et là, tu dis, ah non, j'étais hyper pressée. Bon, bah, la conséquence, c'est que soit on nettoie maintenant et on risque d'être un petit peu en retard, soit bah, on se dit, tant pis, il n'y a plus le temps, on fera ça en arrivant. Mais en tout cas, il y a un moment, il faudra qu'on nettoie, il faudra qu'il y ait réparation. Et en fait, cette réparation, je vais l'appeler comme ça, il y en a qui l'appellent punition. Et je veux dire, il y en a aussi, par contre, qui vont chercher un autre prétexte, par exemple, qui vont dire, t'as cassé un verre, enfin, peut-être c'est pas le bon exemple, mais on va dire, tu ne m'as pas écouté, donc samedi prochain ou dimanche prochain, tu n'iras pas chez ta copine, ou on n'ira pas au parc, on fera pas ci. Ça, c'est une vraie punition, dans le sens où il n'y a aucun rapport. L'enfant se construit dans quelque chose de complètement incohérent. Il faut que la conséquence soit directement liée à l'action qui vient de se passer. Ouais. Par exemple, tu vois, tu dis que, moi je sais que, prenons l'exemple du vélo. Ils sortent toutes les affaires. S'ils ne veulent pas ranger, c'est donc toi ou ton conjoint qui va ranger. Mais la conséquence, c'est que peut-être que bah, le moment où vous aviez prévu de faire quelque chose ensemble, eh ben, il n'y en aura pas.
Mais ça, c'est un peu ce que je leur explique. Voilà. Je leur dis, bah, de toute façon, le temps imparti, il est écoulé. Vous avez préféré, par exemple, faire autre chose, pas prendre le temps de venir m'aider. J'ai mis plus de temps. Bah, c'est fini. Il est midi, maintenant c'est l'heure de manger. On n'a plus le temps de faire ce qui était prévu au départ ce matin. Je vous ai expliqué le déroulé de la matinée. Bah, y a des choses, on n'a pas eu le temps parce qu'il s'est passé ça, qui nous ont retardés.
Et ça, il faut que l'enfant le comprenne. Tu vois, il y a encore quelques jours, les enfants faisaient du chahut au moment de se laver les dents, de se mettre en pyjama. Tu vois, ils mettaient beaucoup de temps. Et il y a un moment, en fait, bah, moi, je leur ai dit, moi, je monte parce qu'il y a l'histoire. Et ils ne montaient pas et ça traînait. Et intérieurement, je n'étais pas bien dans le sens où moi, j'étais fatiguée. D'ailleurs, je leur dis souvent, vous savez, le soir, je suis fatiguée. Donc, j'ai besoin que vous coopériez. Et ils le savent parce que je leur dis tous les soirs, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, je leur dis des fois, vous savez que le soir, je suis, et ils le disent, fatiguée. Et donc, du coup, ils savent qu'il faut que ça, file parce que je suis fatiguée. Donc, ils savent que mon niveau de patience est très bas et qu'en gros, si ça se passe pas comme ça devrait se passer, ça va mal se passer ou en tout cas, il va pas se passer les choses de d'habitude. Et donc, voilà, ce soir-là, ils faisaient les fous, ils chahutaient, ils prenaient leur temps, ils faisaient tout, sauf faire les choses qui avaient nécessaires. Et donc, moi, je suis montée et je leur ai dit, moi, je monte, il y aura pas d'histoire ce soir parce que je suis fatiguée. Et donc, évidemment, ils étaient pas du tout contents. Constance a pleuré, etc. Enfin, ça n'allait pas. Ils disaient, ah, non, on veut l'histoire. Voilà, même Arthur. Enfin, ils ont tous un petit peu chouiné, etc. Et donc on est monté, donc enfin ils m'ont retrouvé en haut, moi j'étais dans le lit, prête à les accueillir à mes côtés, parce qu'il n'y a pas de raison que non plus que je, par exemple, que je ne les endorme pas, il n'y a pas de lien, je les endors tous les soirs et ça ne me demande pas d'énergie. Et en fait, je leur ai dit, mais moi je suis fatiguée. Et donc à un moment, vous m'avez mis en colère et maintenant je ne suis plus dans les dispositions pour lire l'histoire. C'est fichu. Là, je n'ai pas envie de lire une histoire.
Oui, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même gérer la crise d'avoir refusé de faire l'histoire. Alors, c'est là où moi aussi, j'ai encore un problème.
Eh bien non, parce que moi, du coup, là, pour le coup, moi, ils le comprennent. Et je dis, vous avez le droit d'être triste que je ne lis pas l'histoire. Mais moi, je suis en colère parce que vous avez mis 20 minutes à vous laver les dents. Enfin, tu vois, et je leur explique pourquoi je suis en colère. Ce n'est pas juste je suis en colère toute seule. Je leur dis. Et en fait, quand je leur dis les vraies raisons, bah, si tu veux, ils les comprennent quand même. Oui. Et puis, bah, je leur dis bien que je comprends qu'ils soient tristes. Je dis, OK, on peut se faire un câlin, il n'y a pas de souci. Ça, un câlin dans le noir, en s'endormant, il n'y a pas de souci, parce que ça, bah, il n'y a pas de lien. Tu vois, moi, il suffit juste que je sois allongée dans le lit, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je leur ai dit, moi, là, maintenant, je ne suis plus en capacité de lire une histoire. Je ne veux pas bien la lire, je ne suis pas contente, je ne suis pas assez bien pour lire une histoire.
Et oui, voilà, oui, la relation, elle s'est abîmée, il n'y a pas eu de respect.
Voilà. Et je peux te dire que depuis cet épisode-là, d'ailleurs, ça arrive très rarement, très, très, très rarement. Quand ça arrive, j'y vais jusqu'au bout, sauf que c'est mort, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'histoire.
Et c'est ça, voilà, il faut tenir.
Maintenant, enfin, je veux dire, ça se passe très bien. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'il y aura un événement pareil qui se reproduira. C'est possible, parce qu'ils sont encore petits et qu'ils vont devoir comprendre parfois en faisant plusieurs fois la même chose. Mais en tout cas, je peux t'assurer que ça se passe très bien le soir maintenant.
Et moi,
quand je leur dis quelque chose, ils savent.
J'ai peut-être tendance à encore toujours avec ce cadre, et ben dire je l'ai dit une fois, justement, il y aura moi aussi, voilà, je dis il y aura plus ça ou il va pas se passer ça. Et puis les pleurs, les larmes, les tristesses, et puis moi, mon cœur de maman qui n'ose pas dire non, et ben on relâche et oui, ben, ouais. Allez, venez, maintenant vous êtes sage, on va le faire quand même. Et...
Alors, tu vois, ça c'est humain, et d'ailleurs c'est humain à n'importe qui, pas forcément avec des enfants, même avec des adultes. Par contre, tu vois, par exemple, si je reprends cet exemple de ce soir-là, moi il n'y a pas eu d'histoire, parce que de toute façon j'étais pas émotionnellement dans l'état de la lire. Par contre, il y a des fois, évidemment, quand il y a des choses qui se passent au cours d'une journée, évidemment qu'après on va passer à autre chose. Mais par contre, l'activité, le besoin, en tout cas le truc sympa, va être différé. Et évidemment qu'il y a un moment, il y a réparation. Tu vois, moi, d'ailleurs, même si on prend cet exemple-là, ce soir, ce qui s'est passé ce soir-là, bien sûr que je leur ai quand même fait un câlin. Tu vois, je les ai pas laissés dans leur chambre toute seule. Enfin, tout seul. Il y a eu quand même, on va dire, cette réparation dans le sens où on s'est blottis les uns contre les autres comme tous les soirs. C'est juste l'histoire qu'il n'y a pas eu parce que je n'étais pas en état de la lire. Par contre, il y a eu le câlin et dès le lendemain, il y a re-eu l'histoire à nouveau. Et en fait, c'est pareil. Tu vois, par exemple, s'il y a quelque chose qu'ils font et que toi, ça te plaît pas, c'est vraiment de l'exprimer et de dire pourquoi tu es en colère et de montrer cette colère. De dire, voilà, moi, là, maintenant, je ne veux plus faire ça. Tu vois, et donc je ne le ferai pas. Et donc l'enfant va peut-être modifier aussi son comportement. Et peut-être que 15 minutes après, ou 20 minutes, ou une demi-heure après, il va revenir te voir avec des mots en disant voilà, bah, maman d'amour, est-ce qu'on peut le faire maintenant? Et là, ça sera peut-être OK. Si toi, tu es dispo, peut-être que là, tu ne seras pas dispo. Et dans ce cas-là, encore une fois, il faut expliquer. Alors attends, moi, maintenant, je fais ça. Par contre, dès que j'ai fini ça, franchement, je te le promets, je vais faire le plus vite possible que je peux pour le finir. Ou tu m'aides, tu vois, si c'est une activité, si c'est du rangement, que ça, d'ailleurs, tu peux inviter ton enfant à l'aider et lui dire, dès qu'on a fini ça, dès que j'ai fini ça, on fait ça ensemble, OK.
OK.
Tu vois?
Oui.
Donc, c'est pas lâcher, parce qu'à un moment, il y a réparation. Regarde, quand tu te prends la tête avec ton conjoint, bah, tout le monde se sépare pas à la première engueulade, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il y a réparation, OK? On fait, bon, allez, OK, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu loin et tout. Enfin, tu vois, c'est pareil avec les enfants. On peut dire non à un moment parce qu'on n'est plus en état de le faire ou on n'a plus le temps de le faire parce qu'il y a des vraies choses, mais il faut les expliquer aux enfants. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif ad vitam aeternam. Il y a un moment, il pourra y avoir cette chose-là qui va se passer. Bien. Et l'enfant doit le comprendre et doit savoir aussi que les limites vont être maintenues. Tu vois, ce cadre va être maintenu. Parce que dire non, moi je dis toujours, si vous savez que vous allez dire oui, dites oui tout de suite. Parce que ça sert à rien de dire non, 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 et puis finalement de dire oui. Parce que là, on apprend qu'une chose, à faire crier son enfant. Donc, si vous sentez, parce que des fois aussi, on n'est pas capable de tenir. Ou des fois, on dit des choses, et puis finalement, c'est absurde. Tu vois, par exemple, du style...
On ira pas manger chez papy ou mamie.
Oui, voilà.
Finalement, de toute façon, on sait que c'est prévu.
Ben oui, voilà. Ou dire tu vas pas aller chez ta copine ou ton copain, ou on va pas fêter ton anniversaire. Mais non, évidemment, bien sûr que non. On sait que c'est pas tenable puisque de toute façon c'est prévu, puis ça engage d'autres personnes. Donc ça, c'est pas la peine de le dire. C'est pas la peine.
Oui, mais des fois, on a que ça qui nous vient.
Ouais, mais dans ce cas-là, dire ça durera moins longtemps parce que là, il va falloir, ça, on prendra plus de temps. Donc on ira chez ta copine au lieu d'y aller. Je dis n'importe quoi. Au lieu d'y aller à 14h, bah ouais, 14h30, ou au lieu d'aller chez papy, mamie, au lieu de rester plus longtemps le soir, enfin, ou dans la journée, bah on devra rentrer plus tôt pour faire ça. Et toi, dire des choses qui sont tenables. Et si jamais, par exemple, je dis n'importe quoi, dire... ouais, on avait prévu d'aller, tu vois, dans un parc ou machin, mais un truc assez sympa, et on n'ira pas, alors que c'est pas vrai, bah voilà, ne pas le dire. Ça sert à rien de le dire. Ou alors, par exemple, autre exemple plutôt, plus parlant. Par exemple, si ton enfant veut quelque chose que tu ne veux pas. Un écran, par exemple. Mmh. Et que finalement, donc il arrive vers toi, il dit, est-ce que je peux faire de l'écran? Est-ce que je peux regarder un dessin animé? Et que toi, tu dis non. Et que tu sais que là, t'as pas la patience et que t'as besoin d'avoir du temps et que au bout de 3 minutes où il va hurler sur toi, tu vas lui dire oui. Dans ce cas-là, dis-lui oui tout de suite, tu vois. Parce que ça lui évite d'apprendre à crier pour obtenir ce qu'il veut. Et de dire, là, c'est la carte exception. Ok, bon, là, j'ai pas ce que j'ai ça à faire. Ok, tu peux regarder ça. Et d'ailleurs, toujours glisser le documentaire ou le truc un peu sympa.
Oui, non,
mais voilà, en tout cas, tout est en tout cas, en ce qui concerne ta problématique, c'est vraiment une problématique d'expression des besoins. Il faut que tu puisses exprimer tes besoins, que ce soit d'ailleurs à ton conjoint ou à tes enfants. Parce que tes enfants aussi ont besoin de voir, de palper ce cadre, même si c'est un cadre fictif, un cadre virtuel. Enfin, d'ailleurs, fictif, pas vraiment, mais virtuel, oui.
Il
faut qu'ils le sentent, il faut qu'ils le ressentent. Et ton rôle, c'est aussi, de par ta posture, de faire respecter le cadre.
Ouais.
Ça, ça va notamment passer par la communication sur l'expression de tes besoins.
Bien sûr. OK.
OK.
Oui, c'est bien. Et par rapport à redonner confiance à mon mari pour qu'il puisse discuter, on peut discuter ensemble de ce cadre et voir ce que chacun est prêt à faire pour...
C'est ça. Il ne faut jamais perdre le fil de la communication. C'est ce qui va de toute façon permettre d'apaiser et de trouver des solutions à toutes les situations.
C'est ça, parce que en fait, moins on communique, plus on s'éloigne.
Et plus
alors qu'il n'y avait aucune raison de s'éloigner au départ. Enfin, voilà.
Ça.
Au final, c'est que on est rentré dans des routines où, petit à petit, il s'éloigne. Et puis aujourd'hui, jusqu'à présent, ça fonctionnait. J'y arrive. Et puis tout à coup, on a besoin d'être soutenu. Et là, on se rend compte, mais t'es pas là, en fait. Et pourquoi tu n'es pas là? Parce
qu'il y a eu un abandon. Il y a eu un abandon émotionnel ou en tout cas de la situation. Et tu sais, personne ne saura jamais ce qu'on a en tête, ce qu'on a en nous, tant qu'on ne l'aura pas exprimé. Mm-hmm. Et parfois, on a des attentes, même parfois des exigences envers nos conjoints, où on se dit, mais il pourrait quand même m'aider, il pourrait voir
c'est
que ça ne va pas.
C'est ça. Tant qu'on ne l'a pas exprimé. Parce que sous principe que je ne veux pas le blesser, je ne veux pas l'embêter, je comprends aussi qu'il a ses choses à faire. Donc, je me dis, c'est pas grave, moi, je vais gérer, je vais surmonter, je vais y arriver, je vais trouver des solutions. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible qu'il ait pas vu qu'il y avait ça à faire et qu'il puisse pas venir me donner un petit coup de main, quoi.
C'est ça. Mais tant qu'on l'a pas exprimé, l'autre ne pourra pas le percevoir de la manière dont nous, on le ressent.
Bien sûr. Et lui laisser essayer des choses. Par exemple, l'autre jour, il m'a reproché, il me dit, tu vois, regarde, j'ai pris les choses en main et ça n'allait pas parce que parce que ce n'était pas dans ce que j'avais pensé, ce que j'avais imaginé. Et effectivement, je n'avais même pas pris conscience qu'il avait essayé de faire quelque chose. Et quand il m'a dit, tu vois, là, j'ai fait le petit déjeuner avec eux, et en fait, tu viens encore me dire que ça ne va pas, parce que c'était une question de timing. Il l'avait démarré trop tôt, et il me dit, donc en fait, autant que je ne fasse rien, puisque dans les deux cas, ça ne te conviendra pas.
Et ça, je pense que il n'a pas tort parce que ça vient évidemment mettre en lumière peut-être ton besoin de contrôle. Et c'est normal parce qu'en tant que femme, on a envie de tout faire. Même moi, tu sais, des fois, Fabien va faire les courses, je lui donne quand même une liste de courses comme s'il n'était pas capable de savoir ce qu'il fallait acheter. Et au pire, s'il manque un truc, c'est pas grave. Soit on retournera dans un magasin dans la semaine, soit on s'en passera. Enfin, je veux dire, mais on est, en tant que femme, c'est normal parce que nous, en tant que femme, on est programmé, on va dire, pour gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et puis on le sait, c'est dans nos habitudes. Et puis on aime faire ça. En tout cas, la majorité des femmes aiment faire ça.
Bien sûr.
Donc, c'est normal qu'on ait envie d'avoir le contrôle là-dessus. Par contre, il faut bien avoir conscience que si on veut donner une part de responsabilité à notre conjoint, et quelque part, si on veut déléguer une part de ce travail à notre conjoint, ce qui est normal, eh bien, il va falloir nous aussi apprendre à lâcher prise et
À
à
fermer un
mettre
petit
un
peu
petit peu
les yeux, oui.
le piano sur ce besoin de contrôle, parce que sinon, ça ne marchera pas.
C'est ça.
Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ce soir, tout va bien se passer, mais il va falloir que tu travailles aussi cette posture en disant, OK, il le fait clairement pas comme je le ferais, mais c'est pas grave. Vois uniquement le temps que tu peux avoir pour toi dans ces
Oui, c'est ça.
moments-là.
C'est ça, voilà. À
Et
ce
puis
moment-là,
voilà.
quel...
Et puis si jamais, tu vois, par exemple, je sais pas, il faisait de la cuisine et c'est pas arrangé comme toi tu le veux, bah tu peux toujours lui communiquer, lui dire, bah tu vois, moi quand après je fais les repas et que je vois que ça colle sur les plans de travail ou que c'est sale, bah ça m'embête en fait. Est-ce que tu penses que la prochaine fois vous pourriez bien nettoyer ceci ou cela? Enfin, en tout cas, tu vois, je te donne un
Oui,
exemple, mais encore une fois, c'est.
c'est l'exemple même, hein, il s'occupe de ranger la table. Moi, je reviens des fois après avoir couché les enfants ou etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore un quart d'heure de travail parce que c'est pas fini comme je l'aurais souhaité. Et il me dit, de toute façon, ça sert à rien que je le fasse parce que ça ne va pas, c'est jamais assez bien fait. Je ne sais pas où tu veux mettre tes affaires, je ne sais pas où.
C'est ça.
Donc.
Alors, il y a l'option évidemment soit de lui montrer, et il y a aussi, attention, cette option de si les choses ont besoin d'être faites comme toi tu le veux, c'est aussi un moment de ta responsabilité. Et si vraiment, pour lui, en fait, c'est pas important, il faut que ce soit ta responsabilité. Tu sais, moi, quand on s'est mis ensemble avec Fabien, on se prenait, donc c'était il y a 20 ans quasiment, on se prenait tous les jours la tête pour l'aspirateur. Parce que pour moi, j'avais besoin que ça soit propre dans la cuisine, par terre, tu vois, là où on mange, il y a des miettes, des saletés. Fabien, non. Et à un moment, en fait, donc tous les jours, on se prenait la tête. Parce que je lui demandais de passer l'aspirateur un jour sur deux. J'avais fait, attends, on va faire répartition des tâches. Et en
Voilà.
fait, il y a un moment, je lui ai dit, mais moi, j'ai besoin que
Arrête.
ça soit propre. Et lui, il m'a dit, mais moi, je vois même pas que c'est sale.
Oui, mais oui, c'est ça. Oui, ça, c'est...
Tu vois? Et en
Bien
fait, ce
sûr.
jour-là, j'ai compris, je vais faire, OK, en fait, c'est mon besoin, parce que lui, il voit même pas que c'est sale. C'est mon besoin que ça soit propre. Donc, si c'est mon besoin, c'est à moi d'en prendre la responsabilité et c'est à moi de passer l'aspirateur tous les jours. Parce qu'en fait, Fabien, il va passer l'aspirateur quand lui, il verra que ça sera sale. Et peut-être que moi, mon seuil de tolérance, bah, il sera largement dépassé.
Oui.
Donc en fait, c'est mon seuil de tolérance, c'est ma responsabilité. Tu vois?
Oui, tout à fait, je vois bien.
Et donc, c'est pareil, si toi, tu vois, tu veux que le soir, ça soit rangé d'une telle manière, peut-être que lui, en fait, il n'en a même pas conscience. Parce que pour lui, c'est rangé.
Oui.
Et en fait, pour toi, dans ton code, dans tes références, bah non, c'est pas rangé. Et dans ce cas-là, c'est peut-être ta responsabilité. Tu te mets un podcast ou le programme Maman épanouie dans les
J'écoute, c'est
oreilles.
Maman épanouie et tout va bien.
Et voilà. Et tu te fais ces petites
C'est
15
ça.
dernières minutes pour remettre les choses comme tu veux, parce que finalement, bah, c'est ton niveau d'exigence à toi. Et tu peux pas imposer ce niveau d'exigence, c'est propre à tous les membres du foyer.
Oui.
Tu vois, parce que
Donc,
chacun a son niveau d'exigence, on est tous différents. Et le truc, c'est que quand on cohabite avec plusieurs personnes, bah, on est confronté au niveau d'exigence et au seuil de
de
tolérance
chacun.
de chacun, de diverses personnes. Donc, c'est
C'est ça.
important aussi de reprendre ses responsabilités.
Et toujours encore communiquer, communiquer,
Communiquer. Et
c'est
ne
très
pas avoir
important.
d'exigence. On peut avoir des attentes, mais elles ne doivent pas se transformer en exigence.
Bien
Bah,
sûr,
tu
oui.
peux OK, ton conjoint, il a sa part d'investissement à faire. Par contre, ça ne doit pas se transformer en une exigence. Et en fait, ça se transforme en exigence à partir du moment où il doit faire les choses selon ton seuil d'exigence, ton seuil de ce que tu veux obtenir.
Bien sûr, oui.
Tu vois?
C'est bien, merci. Tu poses des mots sur des difficultés et voilà, qui vont essayer d'être résolues.
Super. Alors évidemment, garde toujours en tête, Manon, que ça va prendre du temps. Hein. Là, on parle de choses, c'est simple à dire, dans les faits, ça met beaucoup de temps à se mettre en place.
Oui, mais une chose après l'autre, petit à
Voilà.
petit.
Et j'ai envie de dire, il faut être constant. Parfois, tu sais, tu sauras que tu as mal fait, tu vas t'en rendre compte, et c'est OK. Déjà, peut-être que bah, si tu as mal fait, tout de suite le dire à ton conjoint, dire, écoute, excuse-moi, là, je sens que j'ai été trop loin, je t'en ai demandé trop, c'était ma responsabilité, c'était mon exigence, c'était pas forcément la tienne. Tu vois,
Oui,
vraiment le dire. Et puis, au fur et à mesure, au fil des semaines, des mois et même des années, eh ben, tu verras que ça va se fluidifier.
ça se fluidifiera. Oui.
Mais il faut garder la constance de ses actions. Il faut rester constante avec ce que l'on veut et aussi avec ce que l'on est bah, en capacité d'obtenir des personnes avec qui on vit et aussi par rapport à ce qu'ils sont en capacité de faire eux-mêmes.
Oui, bien sûr, oui. C'est bien.
Ok. Bon. Bon, ça va mieux? Enfin, en tout cas, tu sens que tu repars avec des pistes qui vont pouvoir être mises en place?
Oui, oui, oui. Déjà, bah, encore une autre fois, hein, lâcher prise sur mes attentes.
Ouais.
Et puis, bah, réintroduire progressivement une place pour qu'il puisse venir et qu'il n'ait pas à chaque fois l'impression de faire mal, en fait, c'est ça?
C'est ça.
C'est un peu ça, ouais.
Ça, le valoriser, on a tous besoin de valoriser. Tu sais, il y a un petit livre qui est hyper sympa sur le couple, c'est les cinq... ça s'appelle comment? Les cinq langages de l'amour. Oh non, enfin, en tout cas, non, les langages de l'amour. Et donc, il y en a cinq, des langages de l'amour. Et en fait, c'est Gary Chapman qui a écrit ce livre. Et en fait, il explique qu'en tant qu'individu, on est tous réceptifs à un langage de l'amour. Alors, il y a les caresses, il y a les attentions.
Tu en parles dans ton programme.
Bien sûr, j'en parle. Parce que c'est un livre, mais vraiment absolument formidable. Et une fois qu'on a identifié le langage de l'amour de son partenaire, et d'ailleurs le sien, ça devient beaucoup plus facile. Parce que peut-être que ton conjoint, lui, a besoin d'être valorisé. Quand
c'est
toi,
ça.
Tu as besoin d'attention.
J'ai essayé de lui poser la question, mais c'est difficile en fait de répondre à cette question-là comme ça. C'est plus de la connaissance, de l'observation.
Voilà. Et tu peux déjà l'observer. Tu sais, moi, Fabien n'a jamais lu le livre et je pense, sans me tromper, capable de dire quel est son langage de l'amour. Et du coup, j'essaye de, quand je fais quelque chose pour lui, quand j'ai envie de lui faire plaisir, j'utilise son langage de l'amour, qui n'est pas forcément le mien. Parce que moi, j'ai un langage de l'amour complètement différent. Et on n'a pas le même. Mais quand je veux vraiment lui faire plaisir, j'utilise pas mon langage, j'utilise son langage. Parce que j'ai observé que c'était celui-là.
Je vais creuser dans ce sens-là.
Ouais. Et franchement, c'est un petit livre, il se lit très très bien. Bon, et je pense qu'il est dispo en plus sur les plateformes d'écoute comme Audible, donc tu peux l'écouter aussi en version audio. Tu vois, pendant que tu ranges ta cuisine le soir
à 21h30.
Voilà, un petit quart d'heure par soir, en 15 jours, 3 semaines, t'auras fini le bouquin, t'auras fini d'écouter le bouquin.
Pour passer mes nerfs sur tout ce que j'aurais envie de lui dire.
Et d'ailleurs, ça va peut-être aussi même t'ouvrir les yeux sur ton langage de l'amour et pouvoir exprimer à ton conjoint, lui dire, moi, voilà, si tu veux me faire plaisir, bah voilà ce qu'il faudra faire.
Voilà ce qu'il faudra faire. Bon.
Et moi, je sais que c'est quelque chose qu'on fait dans notre couple. Quand Fabien veut quelque chose de moi, bah, très clairement, je lui dis comment l'obtenir. Et je lui explique parce que il a pas les clés, il a pas les clés de oui, moi. Enfin, oui. Enfin, moi, mais je suis codée, on est des individus codés. Il a pas les clés.
Ces relations où on doit échanger, dialoguer, c'est nouveau aussi, je trouve, dans la société, dans le couple, et c'est encore une épreuve à passer. Et voilà, pour essayer de se comprendre et justement de résoudre les crises qu'il peut y avoir et sans se dire en fait on lâche tout parce qu'on se comprend plus et c'est pas ça le fond du problème. C'est facile de lâcher tout et de se dire en fait nos enfants ont abîmé le couple, on ne s'est plus compris depuis qu'ils sont là et puis non.
Exactement.
Exactement.
C'est nouveau parce que les générations précédentes, en tout cas là, il y a les 100 dernières années, il y avait beaucoup de couvercles posés sur les émotions. Il fallait se comporter et se conformer à ce que la société attendait de nous. Aujourd'hui, on est en train de remettre l'individu au cœur de la société. C'est-à-dire que vraiment, les singularités, les individualités reprennent de la place et de l'ampleur. Et donc forcément, il y a beaucoup de codes à réapprendre et à se réapproprier. Mais c'est un chemin nécessaire pour une société plus épanouie.
Oui, probablement, parce que ça permet à chacun de s'exprimer et de voilà.
Ouais. Donc il faut commencer à le faire à son échelle, et son échelle, c'est son couple, c'est sa famille.
C'est ça. Oui, tout à fait.
C'est ça.
Moi, j'ai la chance d'avoir aussi l'échelle de la classe.
Oui.
Mes élèves.
C'est clair.
J'ai encore une autre aventure.
C'est clair, mais qui est une superbe expérience humaine.
Sur les besoins des enfants.
Ouais, très clairement. Voilà. Bon, écoute, on va s'arrêter là, Manon. N'hésite pas à venir m'en parler. Tu peux m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou par mail. Tu m'envoies un petit message pour me dire comment ça s'est passé dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Voilà, s'il y a eu une belle réussite, si tu vis quelque chose qui t'a profondément fait plaisir par rapport à après avoir mis en place quelque chose dont on a parlé, viens me le dire. Ça me fera très plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Merci.
On reste pas encore 2 ans
deux
sans
ans.
Se connaître de nouvelles.
Mais c'est vrai que oui. Après, on a une fois qu'on a eu coupé le contact, j'ai dit on n'avait plus vraiment de moyens de te communiquer. Je savais pas forcément comment voilà, te joindre ou donc c'est vrai que je...
Moi, je suis très disponible sur Instagram. Vraiment, je réponds à
okay.
tous mes messages. Il n'y a que moi qui gère mon compte Instagram. J'ai pas de community manager, j'ai pas de personne. J'ai pas mes chères assistantes ne viennent pas sur Instagram. Il n'y a que moi qui vois les messages et qui y répond. Et je suis hyper disponible. Je réponds à tous les messages. Parfois pas dans la journée, mais
oui,
ça
sûr,
peut prendre
ouais.
un ou deux jours. Mais en général, pas au-delà de 2-3 jours, je dirais maximum.
D'accord.
Mais en tout cas, je réponds à tous mes messages sur Instagram. Donc,
c'est
tu viens, tu me dis c'est Manon et voilà, je vous verrai. Je te
c'est
reconnaîtrai, enfin, ou du coup, tu me diras que c'est toi, et puis voilà,
bien.
Tu me diras.
Merci. Et bon, mais c'était un très bon moment. Merci beaucoup. Très joli moment.
Merci beaucoup, Manon. Je te dis à très bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré pour votre vie de femme, dans votre parentalité ou dans votre business. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez à cœur de partager cet épisode auprès d'amis, de proches, de sœurs, de mères qui ont besoin d'entendre certaines choses que vous avez entendues aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler, à en relayer l'information sur les réseaux sociaux ou tout simplement en parler lors d'un repas, d'un déj entre copines, pourquoi pas. En tout cas, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description de ce podcast. Et moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.